Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au cours des deux semaines précédentes, nous avons examiné le quatrième des 10 commandements qui nous fait savoir expressément qu'un jour de repos hebdomadaire a été fixé non pour le juif mais pour l'homme, pour toute l'humanité. L'observance du dimanche est une coutume païenne instituée par les hommes, elle n'a jamais été pratiquée par le Christ et, après sa mort, jamais les apôtres ne l'ont suivi, car elle aurait été à l'encontre des ordres divins. Ceux qui avancent des arguments contre le sabbat et en faveur du dimanche citent des articles, même des livres écrits par des théologiens, des historiens, des professeurs de religion, etc. Mais on ne trouve dans ces citations aucune référence biblique directe et précise prouvant que, depuis la mort du Christ, le jour du repos établi pour l'homme au septième jour de la semaine a été transféré au premier jour de la semaine, et pour cause. Paul se présente comme l'apôtre des païens. Se trouvant à Antioche de Pisidie, il entra dans la synagogue avec ses compagnons le jour du sabbat. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. Que ce soit à Antioche, à Icône ou à Thessalonique, Paul se rendait à la synagogue le jour du sabbat, et, lorsqu'il se trouvait devant presque tous les citadins ou devant une multitude de Grecs, c'était la bonne occasion de parler d'un transfert éventuel du jour du repos au dimanche. Paul n'en dit rien. À Corinthe, Paul logea chez Aquilas et sa femme Priscille. Il travailla chez eux. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul leur dit « Dès maintenant j'irai vers les païens ». Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Il y avait assez de personnes pour former une petite congrégation qui aurait pu s'assembler le dimanche, mais Paul n'ordonna aucune modification quant au jour à observer. Plus tard, Paul écrivit « Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent. » Il n'est plus question de synagogue ici. C'est donc une occasion propice de réunir ces gens le dimanche et d'annoncer ce changement éventuel. Mais dans aucune de ses épîtres, Paul n'en parle. Pourquoi? Parce qu'il sait que les commandements ont été établis pour toujours. Ce matin, j'aimerais voir en votre compagnie plusieurs passages bibliques, trop souvent tirés de leur contexte, dans le but de nous faire croire des affirmations fausses. Voyons un incident qui a eu lieu à Troas. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vint ensuite l'incident du jeune homme qui, pendant le long discours de Paul, tomba du 3e étage. Paul remonta dans la chambre haute et, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla encore longtemps jusqu'au jour, après quoi il partit. On tente d'expliquer que les disciples étaient réunis pour participer à ce que beaucoup appellent la Sainte Cène. Mais examinons le récit. Le sabbat était terminé. Paul et les disciples s'étaient réunis pour rompre le pain parce qu'ils avaient faim, tout simplement. Paul savait très bien qu'en instituant les nouveaux symboles de la Pâque, le Christ n'avait rien modifié du jour ni de l'heure où ils doivent être pris. Toutes les fois que l'on prend ce nouveau symbole, on commémore la mort du Seigneur. C'est donc un mémorial, un anniversaire de sa mort, à prendre au temps fixé par Dieu une fois par an. Si vous souhaitez recevoir notre étude sur ce sujet, il vous suffit de nous la demander et elle vous sera expédiée gratuitement. Mais revenons à Troas. Paul tint la parole longtemps. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le soleil était couché et le sabbat terminé. Ils cassèrent donc la croûte parce qu'ils avaient faim. Ils rompirent le pain. Ce n'est que lorsque le jeune homme et Paul remontèrent que Paul rompit le pain et mangea. On voudrait nous faire croire que l'Église primitive célébrait la scène au cours d'un repas fraternel, agapé. Mais Paul s'oppose à cela. Il écrit à ce sujet « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. » Le grand Larousse encyclopédique donne au mot « agape » la définition suivante, du grec « amour ». Dans la primitive Église, repas que les fidèles prenaient en commun. Il n'est pas sûr que l'agape ait jamais été liée à la célébration de l'Eucharistie. En tous les cas, dès le IIe siècle, l'Eucharistie est distincte de l'agape. Ce repas vivement critiqué par les païens finit par donner lieu à des abus et disparut peu à peu vers le Ve siècle. Fin de citation. On cite souvent Luc, qui rapporte ce qui suit. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient nombreux pour la Pentecôte. 3000 personnes venaient d'être baptisées et les frères d'un peu partout étaient reçus chez ceux qui habitaient Jérusalem et les environs. Ils furent là pendant plusieurs jours, ce qui ne prouve en aucune façon l'observance du dimanche. Rompre le pain ne se réfère pas uniquement à l'Eucharistie ou à la scène. Le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse écrit au sujet du pain des Hébreux « Leur pain était toujours plat comme une galette, ce qui leur permettait de le diviser avec les mains sans l'aide d'un instrument tranchant. De là viennent ces expressions si souvent répétées dans l'Écriture « rompre le pain, la fraction du pain ». Lorsque Paul était sur le bateau qui s'échoua sur l'île de Malte, il encouragea les 276 personnes à manger. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Dire que les membres à Troas s'étaient assemblés pour un service religieux parce qu'ils avaient rompu le pain n'est pas conforme au récit biblique, c'est une assertion tout à fait contraire à la vérité. On cite encore le passage suivant. « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. » Les membres de l'Église ne devaient pas s'assembler le dimanche pour remettre ce qu'ils pouvaient, c'est chez eux, en leur domicile, qu'ils devaient procéder au triage domestique pour faire des dons en faveur des saints. Certains théologiens essayent de prouver que les 10 commandements sont appelés le ministère de la mort. Il serait question d'eux dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 7. Ils remarquent que la figure de Moïse brillait après la réception des 10 commandements. Mais si la figure de Moïse rayonnait, ce fut plus tard, lorsqu'il eut été en présence de l'Éternel d'une manière directe et privée. Les 10 commandements ont été donnés par l'Éternel du haut du mont Sinaï, et tous entendirent distinctement les paroles de l'Éternel. Moïse, en même temps que tout le peuple, se trouvait au pied de la montagne. Car l'Éternel lui avait dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Et remarquez que c'est Dieu lui-même qui rappela les 10 commandements Et après que l'Éternel eut cessé de parler, Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le peuple terrorisé refusa d'écouter Dieu plus longtemps. L'Éternel donna à Moïse les lois contenues dans les chapitres 21 à 23 du livre de l'Exode. L'alliance n'a été conclue qu'à partir du chapitre 24. Cette alliance ne mettait en cause ni les commandements, ni la loi. Il s'agissait d'une promesse de la part du peuple de faire tout ce que Dieu lui demanderait. Et en contrepartie, il deviendrait le peuple de Dieu et jouirait de ses bénédictions. Cette alliance, scellée par le sang, devint obligatoire. Ces théologiens écrivent au sujet de Moïse que son visage ne brillait pas lorsqu'il était question des lois citées dans Deutéronome, le chapitre 27, versets 1 à 6. Mais c'est normal, le Deutéronome est une répétition de la loi. Ce livre a été écrit par Moïse au cours du 11e mois de la 40e année après l'Exode, donc longtemps après l'épisode du Sinaï, au moment où la seconde génération s'apprête à entrer dans la terre promise. Moïse rappelle les événements passés, et ce livre se termine par sa mort. Beaucoup de commentateurs pensent qu'Esdras fut l'auteur du dernier chapitre, pour d'autres il s'agit de Josué, mais cela est sans importance. Il faut faire la différence entre les tables de pierre, sur lesquelles Dieu avait écrit de son doigt les 10 commandements, et les pierres qui devaient être dressées au milieu du Jourdain. Ces pierres étaient hautes, de façon à être vu de loin et appelé à servir d'avertissement, alors qu'en ce qui concerne les tables, Moïse est descendu de la montagne en les tenant en main. Les lois civiles, indépendantes des 10 commandements, pouvaient aller jusqu'à la peine de mort. Moïse fit savoir à Josué qu'elles devaient être écrites par des lettres gravées sur des pierres, comme l'indique l'hébreu original. Ce mot est katab signifiant graver, écrire. Paul écrit « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. » Le mot « ministère » est ici traduit du grec « diakonia », ce qui signifie aussi « l'administration de la mort ». Ce mot a été traduit par « service » dans la Bible Hostie, ainsi que dans la traduction d'André Chouraki. Il s'agit d'une loi qui était administrée au sein de la nation d'Israël et elle pouvait entraîner la mise à mort des rebelles dans certains cas. Les 10 commandements ne peuvent pas être appelés le ministère de la mort. Le Christ a dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ». Paul a ajouté que l'observance des commandements de Dieu est tout. Remarquez que le Christ, pas plus que Paul, ne se réfère à l'observance d'une partie des commandements seulement, mais bien des commandements de Dieu, sans faire la moindre distinction, et ceci comprend automatiquement le 4e commandement qui se rapporte au sabbat. Enfin, et ceci est une preuve complémentaire, que les commandements sont vie et non pas mort, dans la dernière page de la Bible, on peut lire « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie ». Le commentaire Clark traduit par « Heureux ceux qui observent ses commandements », ce qui est plus fidèle au texte original grec.